Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Vous écoutez Radion, il est 11h passé de quelques minutes. Bienvenue à toutes et à tous, bonjour et merci de retenir ce nouveau numéro de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec une invitée qui va nous accompagner. Elle signe un premier roman aux éditions Librinova. Premier roman qui a pour titre « Sous les mains de Shiva ». Sans plus tarder, je vous la présente. Bonjour Betty Yorillo.
Bonjour Yannick Petit.
Merci à vous d'être aujourd'hui devant notre micro pour évoquer ce premier texte, gros, volumineux roman « Sous les mains de Shiva ». Betty Yorillo, vous êtes psychologue clinicienne et thérapeute de couple.
Oui,
je le répète, « Sous les mains de Shiva » est votre premier roman. Vous exercez à Saulieu, en Côte d'Or.
Oui.
Et Betty, ce premier roman, c'est un roman audacieux, à l'écriture souvent ciselée dans la poésie, une écriture très métaphorique parfois, hein, richissime en images. Un livre, alors je donne le synopsis de manière très sobre, mais le livre est si riche que j'ai peur de mal le présenter, mais vous êtes là au cours de cette heure pour éventuellement combler les lacunes des commentaires de l'animateur. C'est un livre qui relate les difficultés, mais aussi les joies complices de deux couples dont nous allons parler, alors que l'amour et la passion embrasent, parce qu'il y a des scènes, on va dire, alors Betty Yorillo, je parle sous votre contrôle, il y a des scènes érotique,
bien sûr,
parfois pornographique. Enfin, on est dans l'esprit des 11 000 verges d'Apollinaire, puisqu'à un moment, une de vos héroïnes a ce livre d'Apollinaire dans son sac à main au moment où elle se rend à un congrès de médecine parallèle. Alors, Betty Yorillo, on va bien sûr parler de votre roman. Je vous ai présenté de manière succincte. Y a-t-il d'autres éléments que vous pourriez ajouter à votre présentation? Et puis, je vous demandais ensuite, qu'est-ce qui vous a conduit à l'écriture quand on est psychologue, qu'on reçoit des personnes, des couples, puisque vous êtes psychologue de couple? Qu'est-ce qui vous a amené à écrire de surcroît un roman aussi volumineux? Ce qui n'est pas un défaut. Hein.
J'entends bien. Beaucoup de questions là, que je vais essayer de synthétiser, auxquelles je vais essayer de vous répondre avec précision. Rajouter à ma présentation, ma foi, non. Je pense que vous avez dit l'essentiel. Enfin voilà, donc je rajouterai que je suis installée en Côte d'Or depuis finalement peu de temps, un petit peu moins d'un an et demi, puisqu'autrefois j'étais en région parisienne. Voilà, et j'aime profondément cette nouvelle région où je me suis établie et où je travaille, où j'accompagne de nouveaux patients avec la même passion qui m'anime depuis toujours en tant que thérapeute. Et puis, comment envisager effectivement l'écriture en parallèle à un métier de psychologue, de thérapeute? Vous savez, moi, je dirais que ce qu'il y a en commun, finalement, entre les deux, fondamentalement, c'est les mots, l'amour des mots et la conscience, en fait, du pouvoir des mots. Les mots peuvent, j'en suis convaincue, guérir, ouvrir des portes, des perspectives, des mondes. Les mots sont remèdes, les mots sont magie. Et les mots m'ont toujours animée. Je vous dirais que peut-être même bien avant d'embrasser ma vocation de thérapeute, j'écris depuis toute petite. Je dirais que c'est aussi ce qui a été mon fil d'Ariane dans bien des moments. Donc voilà, alors pourquoi volumineux? Écoutez, volumineux parce que déjà j'ai consacré à l'écriture de ce premier roman 10 années de ma vie. Voilà, donc Pas en écrivant tous les jours, bien évidemment, parce que là, on pourrait se dire que je suis quand même pas très, très rapide. Voilà, donc volumineux parce que ça a été tout un cheminement, toute une réflexion, tout un approfondissement sur des thématiques qui m'ont toujours été chères, qui m'ont toujours questionnée autour de l'amour, du couple, de la sexualité, de la liberté, la fidélité, l'infidélité. Voilà, et c'est pas exhaustif, hein, c'est très très vaste ces sujets-là. Et comment est née en fait fondamentalement l'idée de l'écriture de ce roman ? Eh bien, elle est inspirée justement directement, vous voyez qu'il y a vraiment des passerelles avec ma profession et ma formation initiale. Cette fiction en fait est inspirée de mes travaux de recherche de maîtrise lorsque j'étais en psychologie clinique pathologique, donc en maîtrise. Et c'est vrai que déjà à l'époque, hein, j'ai pris la décision en fait d'aborder un sujet très audacieux, totalement pionnier en fait, hein, pour rédiger mon mémoire de recherche qui n'avait jamais été investigué sous l'angle clinique, mais uniquement et de manière quand même très très sporadique sous l'angle de la sociologie. Et donc je me suis interrogée sur les couples libertins en me disant bon. Au-delà de la fascination ou de la répulsion qu'on peut avoir à l'égard de cette démarche, comment les comprendre en fait, hein, que des couples hein, parlent de leur sexualité et une conscience de leur sexualité au point effectivement de prendre une décision d'aller expérimenter des expériences parfois un peu très très vastes hein, ensemble. Voilà, et ça a été un travail tellement riche qui a mis en lumière tellement de thématiques que finalement, moi qui écris depuis toujours, j'attendais peut-être un peu le thème qui allait vraiment, vraiment m'inspirer. Et vous voyez, il m'a inspiré 10 ans durant, pour me lancer dans ce que j'ai toujours adoré, c'est l'écriture de la fiction. Donc, quelques années après ces études, en fait, j'ai commencé l'écriture de mon roman Sous les mains de Shiva.
Alors, je ne vous cache pas aussi le grand intérêt porté à ce roman. Parce qu'il y a l'aspect divertissant, il y a la vie de ces couples, leurs rencontres, leurs passions, leur désir d'aller vers d'autres aventures, de faire évoluer alors leur désir, leur sexualité, on y reviendra. Et puis il y a un grand nombre de réflexions, non seulement, vous l'avez dit, sur le désir, la chair, le couple, la fidélité, la sexualité, bisexualité, homosexualité, tout est évoqué. Et je trouve que ce roman remarquablement écrit avec des passages poétiques et à mon avis extrêmement travaillés de votre part, et je comprends l'exigence que vous vous êtes imposée, il y a effectivement matière à puiser réflexion, à nous interpeller sur nos désirs, sur nos faiblesses peut-être nous encourager aussi à nous libérer. J'ai l'impression que c'est un roman qui pousse les gens à se libérer à la fois dans leur corps et dans leur tête.
Oui, c'est très très juste ce que vous dites. Je pense que peut-être même, et là je le formalise pour la première fois véritablement avec vous, c'est un roman en fait qui parle de liberté. De liberté intérieure, de liberté de l'être humain, de l'âme. Effectivement, et c'est peut-être une invitation, enfin, je n'encourage ni dans un sens ni dans l'autre, ça va beaucoup plus loin que ça et c'est profond et vous l'avez pleinement perçu. Mais effectivement, j'invite en fait chaque lecteur à questionner et à s'ouvrir à sa propre possibilité de liberté et de libération, parce que je pense que les deux sont liés. Tant au niveau charnel, mais pas seulement, au niveau émotionnel, au niveau spirituel.
Oui. Il y a une dimension spirituelle importante, oui. Parce qu'une de vos héroïnes a le désir de partir en Inde. J'allais dire, le roman est frotté de bouddhisme, par certains aspects, parfois.
C'est vrai, tout à fait, tout à fait.
Alors, les philosophies orientales peuvent être tentantes. Néanmoins, la citation qui ouvre le roman est celle d'un philosophe allemand, donc européen, bien évidemment, Friedrich Nietzsche. « J'aime ceux qui ne savent vivre autrement que pour se perdre, car ils passent au-delà. Oui. » Alors, au-delà, c'est au-delà des codes, au-delà des normes imposées par la société. Il est question d'ailleurs des pièges de la société à un moment dans le roman. Alors, le piège, c'est le mariage, par exemple. C'est un des pièges de la société. Betty Yorillo, il faut vous expliquer sur les pièges de la société.
Oui. Alors, déjà, j'aimerais revenir sur le au-delà. Hein. Si j'ai choisi cette citation introductive, effectivement, c'est bien sûr pas un hasard. Oui, au-delà, bien sûr, des codes, des idées reçues, de l'ordre établi, enfin, qu'il est important, je pense, d'aller re-questionner, d'aller faire bouger.
Franchir des seuils, en fait. Bousculer.
Oui, mais c'est au-delà, il y a vraiment une aspiration, vous voyez, de transcendance, aller au-delà de soi. Il y a quelque chose un petit peu, vous voyez, du symbole du phénix. C'est-à-dire mourir à soi pour renaître, atteindre en fait sa véritable dimension. Vous voyez ce que je veux dire, c'est effectivement à ce titre, c'est sans aucun doute un peu métaphysique aussi. Alors concernant le mariage, oui, j'ai fait des clins d'œil, notamment avec mon personnage, un de mes personnages masculins, en l'occurrence Sam, qui fait référence à la très belle chanson de Georges Brassens. Mais c'est pas que je considère forcément le mariage comme quelque chose qui n'ait pas de sens et qui soit forcément à proscrire. Je pense qu'il peut y avoir fondamentalement quelque chose d'extrêmement beau et de transcendant dans le mariage. C'est beaucoup plus en fait ce que je questionne et que je viens un petit peu aussi bousculer. C'est ce qu'on nous impose, ce qu'on en fait, ce que la société, comme à figer. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont très très figées. On peut avoir le sentiment à l'époque actuelle qu'en fait on est dans une société, une ère de grande liberté. Et au contraire, je trouve que c'est extrêmement normé, extrêmement normatif. Et c'est ça que je viens peut-être aussi interroger.
Betty Yorillo nous accompagne jusqu'à midi à bord de Wagon Livre. On la retrouve dans une poignée de minutes. Nous allons marquer un premier intermède musical. Je rappelle le titre de son premier roman, Sous les mains de Shiva. C'est aux éditions Librinova. Donc si on désire se procurer les livres, et j'encourage grandement les auditrices et auditeurs à le faire, et vous le ferez vraisemblablement à l'issue de l'émission, vous vous rendez sur le site internet de Librinova.
Alors oui,
version numérique, bien évidemment, et papier possible.
Oui, voilà, mais pas seulement en fait. Mon livre en fait peut être commandé sur tous les sites en ligne, y compris dans les librairies.
Cultura, etc., etc.
Cultura,
j'ai vu
Fnac,
sur le site.
Voilà, effectivement. Mais Librinova, bien évidemment aussi.
Première virgule musicale, Betty Yorillo, et nous vous retrouvons dans une poignée de minutes.
Avec plaisir.
C'est bien plus marrant, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Au fond de son lit, un macho s'endort. Je t'aime, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Qu'elle sort, même dans elle, ils disent qu'il faut faire un effort. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Elle fume beaucoup, elle a des avis sur tout. Elle aime raconter qu'elle s'est changé une roue. Elle avoue son âge, celui de ses enfants. De temps en temps, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, non.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Elle est aujourd'hui devant nous avec son premier roman intitulé « Sous les mains de Shiva », disponible en librairie, dans d'autres points de vente ou par internet aux éditions Librinova. C'est Betty Iorillo qui nous accompagne. Alors Betty, nous avons déjà engagé la conversation. Dans votre roman, vous mettez en scène deux couples. L'un qui est un peu établi, Marco et Lola, puisqu'ils sont en couple depuis 15 ans. Et puis, on assiste à la naissance. Hein, on voit vivre, démarrer la relation entre Anna et Sam. Il s'appelle Sam Blaise. D'ailleurs, son professeur de philosophie le taquine un peu en l'appelant Sam Baise. Alors...
Enfin, il ne l'appelle pas comme ça. C'est, mais bon, je, voilà... Il y a quelque chose qui se passe avec ce professeur de philosophie. Et à un moment donné,
c'est pas
justement,
anodin non plus.
Bien sûr, bien entendu. Mais voilà, Sam a l'impression, en fait, hein, que son professeur l'appelle ainsi. Mais il a une diction irréprochable. Ce n'est pas comme ça qu'il l'appelle. Mais voilà, il y a le message presque subliminal hein, qu'il va capter.
Alors, Sam et Anna. Alors, Anna, elle a un très lourd passé de souffrance. Elle est artiste peintre. Elle fume des joints. Elle est un peu... Vous me le permettrez, Betty, de dire un peu hystérique parfois dans sa relation avec les hommes. En tout cas, aucun ne lui convient. Elle les trouve tous idiots et insipides jusqu'au jour où, dans une soirée, dans un bar, elle est magnétisée par un bel hidalgo. Donc, c'est notre fameux Sam qui a 45 ans, qui lui aussi a un parcours de souffrance, enfance solitaire, une dépression à 11 ans. Et puis, il a eu la curiosité d'un enfant, il a regardé ses parents coucher ensemble, il a une sexualité un peu débridée.
Il a baigné dans un climat effectivement compliqué, alors, un climat incestueux, je ne pense pas, concernant Sam, mais effectivement très tôt, en fait, Sam s'est construit autour de la connaissance, ce qui a été quelque part à la fois son cheval de bataille, mais aussi sa résilience. C'est la connaissance. Donc, la connaissance.
De philosophie, métaphysique, voilà, l'intéresse énormément. Grand lecteur, cultivé, fasciné par son professeur de philosophie avec lequel il découvre l'homosexualité oui.
En tout cas, il découvre justement, il élargit la perspective de sa sexualité. C'est-à-dire qu'au-delà, justement, il le dit clairement à un moment donné dans un passage de mon livre. Au-delà de se définir comme étant homosexuel ou bisexuel ou hétérosexuel, en fait, voilà, hein, il va aller lui questionner, rencontrer ses différentes identités, ses différentes facettes. Et là aussi, ça ouvre une perspective, parce que au-delà, effectivement, de se définir en tant qu'homosexuel ou hétérosexuel, en fait, voilà, comment aborder et vivre, du coup, de la manière la plus libre et la plus harmonieuse qui soit sa sexualité.
En tout cas, c'est un gourmand au niveau de la sexualité. Bon, c'est aussi un esthète érudit. Il est architecte depuis 15 ans. Donc, il rencontre Anna et tous les deux vont vivre une histoire extrêmement violente. Enfin, quand je dis violente, c'est au sens positif du terme. Passionnée, dangereuse d'une certaine manière.
C'est entre guillemets le prix à payer, parce que j'aime pas trop ce terme, mais de l'intensité. Je pense que ce sont deux êtres, en tout cas, très entiers. Et écorché pour des raisons différentes et de façon différente. Mais voilà, ils sont pleinement entiers, donc vivre les choses en demi-mesure, ça n'est pas possible, quoique vous allez voir au fil du roman, enfin voilà, c'est pas qu'ils vont dessiner une sorte de nuancier, mais ils vont trouver l'un et l'autre. Et en ayant traversé cette intensité, voire cette violence dont vous parlez, leur équilibre, leur douceur, leur complétude.
À un moment d'ailleurs, Anna, parlant de sa relation avec Sam, dit « C'est comme si je redevenais vierge et qu'il passait son temps à me dépuceler.
» Oui, oui, c'est ça, c'est ça.
Alors, Sam a quand même beaucoup d'audace puisqu'il aime la transgression.
Certes.
C'est un iconoclaste. Lui, les codes, il aime les faire voler en éclats.
Oui. Oui, ça fait partie de son chemin de connaissance.
Alors, il voudrait, il le fait d'ailleurs, faire l'amour dans une église ou alors au Père Lachaise. Il est un peu ambitieux, audacieux et je dirais que pour le commun des mortels, un peu taré. Mais je dis volontairement cela pour vous faire réagir, Betty.
Vous savez, moi, la folie, justement, hein, je ne sais pas ce que c'est la folie. Enfin, voilà, la folie, là aussi, hein, quand je parlais d'étiquette tout à l'heure, qu'est-ce qu'être fou, qu'est-ce qu'être taré. Moi, je pense qu'au contraire, Sam, en fait, même si de l'extérieur, hein, on peut considérer, bien évidemment, et à juste titre, ses tendances, ses penchants, ses goûts comme étant pour le moins particulier, Sam est un être qui est en quête. Et j'aurais même l'audace de dire, mais la sincérité de dire qu'il est en quête de Dieu. Il est en quête d'un Dieu intérieur, en tout cas.
D'ailleurs, voilà. Parlant des femmes, Sam dit « Je les voulais toutes, je voulais être Dieu. »
Oui, voilà.
Mais c'est prendre un risque que Don Juan a pris, et ça se termine mal, d'ailleurs, dans la tragicomédie de Molière.
Certes, certes.
Alors, le désir, c'est une question sous-jacente, elle est en filigrane tout au long du roman, et nous sommes tous des êtres de désir.
Oui.
C'est la raison pour laquelle, parfois, nous éprouvons le manque, mais Lacan disait que tant qu'il y a du manque, c'est que tout va bien.
Certes, certes. Oui, oui, et c'est cette articulation hein, fondamentale, hein, un lien extrêmement étroit entre la notion de manque, d'absence, et de désir, parce que je pense que c'est aussi dans alors là non plus j'en fais pas l'apologie, mais je pense que c'est dans le manque, dans l'absence, dans toutes ces frustrations, voire ces souffrances hein, que le manque et l'absence peuvent susciter, qu'émerge en fait justement hein, quelque chose de l'ordre vraiment de la pulsion de vie, du désir, de l'énergie, de l'être et peut-être aussi de ce qui va l'amener à trouver son identité, à éprouver véritablement qui il est et la manière dont il a besoin, dont il a envie de se relier à l'autre, se relier au monde.
Il y a, dans votre roman, Betty Yorillo, Sous les mains de Shiva, un aspect extrêmement intéressant, me semble-t-il, c'est la dimension de la catégorie sociale à laquelle appartiennent vos deux couples. Parce que ce sont des individus cultivés, qui ont fait des études, qui ont accès à l'art, qui ont une sensibilité, ce qui n'est pas le cas de chacune et chacun. Et finalement, on a l'impression que cette frénésie sexuelle et ce désir de libertinage, on va en parler, du libertinage, touchent plus des catégories intellectuellement élevées plutôt que des gens modestes. Est-ce que, d'ailleurs, à un moment, me semble-t-il, donc, une de vos héroïnes demande à Sam de la conduire dans un club hard, hein, où il va y avoir une véritable orgie sadienne, où elle va être violée, mais dans un cadre, petite précaution de la romancière, dans un cadre bien défini. Avec des gens qui sont consentants et qui acceptent de faire cela.
Oui, et puis pas seulement une précaution. Là, pour le coup, cette scène-là, effectivement, elle est fondamentalement, hein, même si ça peut paraître un peu difficile à envisager, mais il faut lire mon livre, elle est fondamentalement résiliente, cette scène. Elle est essentielle hein, pour justement, quand je vous parlais un peu du symbole du phénix tout à l'heure, c'est ce qui va permettre à Anna d'exorciser, en fait, fondamentalement tous ces démons, hein, toutes les scories de son histoire et qui va l'amener à être fondamentalement presque purifiée, j'ai envie de dire, oui, purifiée. Alors, du coup, j'ai oublié ce que... Oui, par rapport à la dimension sociale. Écoutez, ce que j'ai pu observer maintenant, voilà, hein, pour moi, il n'y a pas de point final, ni de... Je n'aurais pas la prétention voilà, de donner des statistiques, mais ce que j'ai pu observer, notamment déjà lors de mes travaux de recherche, C'est qu'effectivement, ce questionnement sur la sexualité, cette démarche, vont être plus accessibles, en tout cas peut-être plus il va y avoir davantage de les personnes peut-être qui appartiennent à une catégorie sociale un petit peu plus élevée, vont y être davantage sensibles, vont être davantage attirées par cette dimension. Comment l'expliquer ? Vous savez, moi, ce qui me vient un petit peu à l'esprit, je ne sais pas si vous connaissez un peu la pyramide de Maslow. voilà, donc je ne vais pas vous entrer dans les détails, mais je pense que il faut avoir pu combler des besoins vitaux en amont, hein, c'est-à-dire les besoins de se nourrir, d'avoir un toit. Je pense qu'aujourd'hui c'est quand même encore plus important qu'autrefois, pour peut-être après penser, envisager, avoir de l'énergie et du temps à consacrer à son évolution personnelle et à toutes les expériences qu'on va avoir envie de mener pour nourrir cette évolution. Voilà peut-être pourquoi aussi le libertinage ou cette démarche-là va davantage concerner, et encore, ça reste à prouver, une certaine catégorie sociale.
Si vous venez de nous rejoindre, vous entendez parler Betty Iorillo, qui est psychologue, clinicienne et psychothérapeute de couple, qui exerce à Saulu en Côte d'Or et qui est aujourd'hui devant notre micro pour évoquer son premier roman intitulé « Sous les mains de Shiva ». On va parler de libertinage et rentrer dans cette thématique absolument passionnante. Je le rappelle, c'est un récit intense et empli de sensualité qui vous fera, tout comme moi, profondément vibrer. On vibre avec une pause musicale et nous nous retrouvons dans une poignée de minutes avec notre invitée, Betty Iorillo.
Bien sûr, il y a les rimes en fleurs, les métaphores, les grands discours, les je n'aime que toi, les mon amour, les pour toujours, les soleils couchants, le vent, la plage, les océans, les références au cœur, c'est un organe très émouvant. Mieux les je t'aime, tout le monde peut le faire, c'est comme amen, c'est pas très dur. Pour dire bonne nuit chaque soir, là faut vraiment y croire. Pas besoin de prêt-à-porter, de slogans, de phrases toutes faites, tout s'efface partout, prêt à l'emploi. Qu'on se répète. Les mots d'amour, c'est pas ça, c'est bien plus compliqué, crois-moi. Les déclarations les plus belles ne figurent pas dans les manuels. C'est banal, mais les quelques mots que je te destine, je les préfère aimanter sur le frigo dans la cuisine. Je veux voir nos initiales côte à côte sur l'interphone, pas gravées au canif dans l'écorce d'un chêne. Pas besoin de vieux balcons de Roméo et de Juliette, je peux me contenter d'un petit signe par la fenêtre. Faisons l'impasse sur les violons, les toits pour moi et vice versa. Tous ces mots trop doux qu'on a prononcés trop de fois. Les mots d'amour, les mots d'amour, c'est pas ça, c'est bien plus compliqué, crois-moi. Les déclarations les plus belles ne figurent pas dans les manuels. Mon petit cœur, mon petit chat, mon trésor, mon petit rat, ma petite fouine, ma petite teigne, ma sardine, ma sardaigne, mon sagouin, mon trois fois rien, merci qui, merci mon chien, mon soleil, mon bouquet de roses, mon orteil, ma boîte de douce. On peut bien sûr parler d'avenir, promettre monts et merveilles, c'est bien plus fort à tout à l'heure quand on lui murmure à l'oreille. Certains construisent des châteaux, ils y mettent des perles de pluie. Moi j'ai fixé une étagère, elle est d'ailleurs tombée depuis. Ils trouvent encore des formules quand ils se séparent et habillent de ridicule la fin de leur histoire. Moi j'ai pas le cœur brisé, j'ai vérifié chez mon médecin, mais je regrette ces mots d'amour que tu me disais si bien.
Mon petit cœur, mon petit chat, mon trésor, mon petit rat, ma petite fouine, ma petite aine, ma sardine, ma sardaigne, mon sagouin, mon trois fois rien, merci qui, merci mon chien, mon soleil, mon bouquet de rose, mon orteil, ma boîte de douce.
Mon petit cœur, mon petit chat, mon trésor, mon petit rat, ma petite fouine, ma petite aine, ma sardine, ma sardaigne, mon sagouin, mon trois fois rien, merci qui, merci mon chien, mon soleil, mon bouquet.
bouquet de roses, mon orteil, ma voix de douce.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Betty Yorillo, Sous les mains de Shiva. Alors, le titre, je ne l'explique pas parce que je laisse à chacune et chacun le soin d'en découvrir le sens. C'est un code à une première soirée. Bon, je n'en dis pas plus. Non, j'en ai trop dit
Non.
Ou j'ai mal dit les choses
Non. Plus que ça, mais oui.
Ma liberté sera libertine. Ce n'est pas l'animateur de Wagon Livre qui dit ceci, c'est un des personnages de votre roman. Alors, le libertinage, on l'appelle ça le monde horizontal. Pourquoi donc cette formule, monde horizontal?
Voilà,
y a-t-il un monde vertical alors? C'est plus celui du corps que celui de l'esprit, de l'ascension vers...
Alors, c'est même pas... Effectivement, on pourrait l'envisager comme vous l'abordez. En fait, je dirais presque hélas, ça m'a semblé plus simple que ça. Dans ce milieu, en fait, hein, quand j'ai interviewé les couples, quand j'ai rencontré les couples, effectivement, ce terme revenait extrêmement souvent. Le monde horizontal, comme si, effectivement, ça évoque un peu un monde, vous voyez, un monde nocturne, un monde à part, un monde caché, un monde en dehors, justement, de la verticalité là, qu'il y a envisagé en termes de vie sociale, peut-être presque de masque social. Hein.
Alors, à un moment, Sam, de manière très brutale, pose la question. Avez-vous déjà baisé en groupe? Alors, l'échangisme, Betty Yorillo, dans votre roman, j'ai noté cette phrase passionnante et qui demande quelques éclaircissements. C'est souvent l'homme qui propose à la femme de se soumettre à l'expérience libertine.
Oui. Mais ça aurait été bien peut-être aussi d'envisager ce qu'il y a après. Mais oui, c'est au départ, fondamentalement. Oui.
Alors, parce qu'à un moment, vous écrivez justement, l'homme donne sa femme à un autre homme, et vous écrivez, on s'intéresse au couple, enfin c'est Marco, plus Marco donnait Lola, plus il avait le sentiment qu'elle lui appartenait. Il faut partager ça ou son partenaire pour avoir encore plus conscience qu'on a le bonheur de partager sa vie avec.
Eh bien, il peut y avoir effectivement cette dimension-là. Et c'est extrêmement agissant au cœur de la relation qui existe entre Marco et Lola. Et effectivement, ça peut paraître paradoxal, mais voilà, hein, c'est prendre... Je pense que dans le libertinage, dans l'échangisme, en fait, c'est une mise en scène, là, pour le coup, très clairement, hein, donc incarnée dans le réel, une mise en scène, voilà, comment dire, même pas de l'infidélité, c'est de voir son partenaire avoir des relations sexuelles avec... une autre personne. Donc, ça fait effraction, vous imaginez, ça peut faire éclater énormément de choses. Et je crois que en parallèle, ça peut amener, d'une part, chacun à prendre conscience que la sexualité de l'autre, en fait, lui appartient en propre, et qu'il y a une part, fondamentalement, qui lui échappera, et qui lui échappera toujours. Ce qui peut être aussi, je pense, presque une leçon, entre guillemets, d'humilité, voyez. Et je pense que pouvoir traverser ça, aller au-delà de ça, et encore une fois, je n'en fais pas l'apologie, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, qu'il faut le faire ou pas le faire, mais pouvoir traverser ça, je pense que c'est peut-être franchir une étape encore supplémentaire, et peut-être même une grotte supplémentaire dans l'amour de l'autre.
Ce qui est surprenant, c'est que les baisers, il n'y a pas d'échange de baisers. C'est une pratique qui est interdite. On peut sexuellement faire ce que l'on veut, mais on ne s'embrasse pas lors de séances d'échangisme.
En tout cas, c'est ce qu'ont décidé le code, hein, qu'ont établi en fait Marco et Lola. Ils sont une forme de garde-fou. Alors ça peut sembler effectivement un peu questionnant, mais... comme si, effectivement, pour eux, hein, et je crois que c'est très clairement exprimé à un moment donné, comme si pour eux, voilà, le baiser était vraiment de l'ordre de leur véritable intimité, de ce qui leur appartient à eux et de leur amour. Ce qui ne veut pas dire qu'ils clivent le sexe et l'amour, mais qu'ils définissent, parce que c'est fondamental pour la survie peut-être de leur relation, une frontière entre les deux.
Alors, une réflexion suggérée par la lecture de votre roman, Betty Yorillo, est-ce que l'échangisme est pratiqué par des couples en détresse?
Ah mais oui, vous voyez, dans mon roman, j'ai pris le parti, effectivement, de créer, de définir des personnages voilà, qui sont épris, qui ont des grandes qualités, mais qui ont aussi tout un passé extrêmement douloureux. Mais voilà, en aucun cas, ce n'est une photographie de la population hein, échangiste, ni de ce qui se passe globalement dans ce milieu. Et il peut y avoir, évidemment, bien sûr, mais comme je dirais, dans toute autre pratique, qu'elle soit d'ailleurs sexuelle ou pas, évidemment, des personnes qui sont déviantes, des personnes qui ne vont pas bien du tout, et du coup, des personnes qui vont le pratiquer pour des raisons finalement complètement différentes. Éloignées, je pense, de la quête qui anime mes personnages.
Extraite de votre roman, cette phrase, Betty Yorillo, mm-hmm. que je vous soumets, « Il faut peut-être aimer passionnément pour être libertin. »
Oui, oui. Mais voyez, ça, voilà, c'est cette phrase arrive à point nommé. Je trouve qu'elle vient un petit peu parachever ce que je viens de vous dire. Je pense qu'effectivement, voyez, c'est oser imaginer. Donc c'est une confrontation à soi quand même. Hein. Ça confronte à soi cette démarche-là, autant que ça confronte le couple. C'est oser imaginer qu'on n'est pas tout puissant, qu'on n'est pas omnipotent. Qu'on ne peut pas déjà avoir accès pleinement à l'autre, qu'il y a toute une part qui nous échappe, encore une fois, qu'il y a un jardin secret, qu'il y a quelque chose d'un mystère et auquel il ne faut finalement pas toucher, et qu'effectivement, on ne pourra peut-être pas toujours au fil du temps, parce que le couple, eh bien évidemment, il va évoluer au fil de la vie, au fil des aléas de la vie, au fil de la relation. On ne peut pas forcément toujours être en mesure de répondre pleinement aux attentes et aux besoins de l'autre. Et cette démarche-là, elle suppose, je pense véritablement, oui, d'aimer l'autre et de sortir d'une forme d'ego.
En tout cas, Marco et Lola, un de vos deux couples qui apparaît dans le roman, découvrent l'échangisme, mais très vite, ils s'en détournent parce que ça ne comble pas leur idéal de leur soif d'idéal, ça ne leur convient plus au bout d'un moment. Donc ça, c'est pas une pratique forcément qui peut être permanente. Elle peut être effectivement juste ponctuelle.
Ah mais tout à fait, ça peut même
avec ou sans risque finalement pour le maintien du couple.
Oui, avec ou sans risque, bien évidemment. Enfin, en l'occurrence là. Là, je ne veux pas forcément tout révéler, bien sûr, mais ce qui fait qu'à un moment donné, Marco et Lola questionnent ça et puis décident de prendre de la distance par rapport à leur pratique, toute récente d'ailleurs, hein, parce qu'il y a eu 15 ans de vie où voilà, hein, ils n'ont pas.
Ils n'ont jamais cherché à avoir d'enfants, je crois qu'ils ne sont pas mariés.
Ils sont mariés.
Ils sont mariés. Ils sont mariés. Ils sont mariés. Mais voilà. ils n'ont pas le désir d'enfant.
Disons que. Jusqu'à présent, ils ne l'ont pas eu. Enfin, voilà, c'est effectivement pas une thématique sur laquelle je me suis trop penchée, mais ça n'exclut pas l'enfant. Enfin, en tout cas, voilà, pour répondre à votre question, ils vont à un moment donné prendre une distance par rapport à ces pratiques parce que, justement, contrairement à ce qu'ils pouvaient penser, hein, ils pouvaient imaginer que ça allait justement combler encore plus leur quête d'idéal, leur amour fusionnel. Ils se rendent compte que justement, il y a un risque. Vous parliez de risque à l'instant, c'est ça. Il y a un risque. Ce risque, je crois que Lola en a davantage l'intuition que Marco. Pour autant, ils sont deux quand même très clairement à le sentir. Et ils ne veulent pas le prendre. En tout cas, ils prennent conscience du fait que s'ils le prennent, s'ils passent quelque part cette étape supplémentaire, c'est-à-dire de poursuivre, là, ils vont basculer dans autre chose qui risque de mettre en péril leur lien.
Betty, on va marquer une nouvelle petite pause musicale. Je rappelle que vous êtes l'invité de Wagon Livre jusqu'à midi en cette fin de matinée sur Radion pour votre premier roman disponible aux éditions Librinova et qui a pour titre « Sous les mains de Shiva ». Nous revenons d'ici quelques minutes. We'll be right back.
d'abord je veux, avec ma langue natale, deviner tes pensées. Et toi, déjà tu tangues aux flux et reflux des marées.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Sous les mains de Shiva, c'est le titre du premier roman de notre invitée, Betty Yorillo, dont je rappelle qu'elle est psychologue clinicienne et psychothérapeute de couple, qu'elle exerce en Côte d'Or, dans cette jolie petite ville de Saulieu. Betty Yorillo, alors il est aussi question d'homosexualité et de bisexualité. Sam a découvert l'homosexualité étudiant avec son professeur de philosophie. Quant à Marco, il a épousé Lola, 15 ans de vie commune, mais il a toujours eu finalement des penchants homosexuels dans l'adolescence. Il y a une scène dans votre roman au cours de laquelle Marco est dans une salle de dojo et il est un peu fasciné par les odeurs de transpiration, les odeurs qu'exhalent les sportifs, les judokas.
Oui.
Alors sur l'homosexualité, alors ça aussi, les hommes souvent
ne
veulent pas parler d'homosexualité ou ne veulent pas reconnaître qu'ils pourraient avoir une relation avec un homme. Bon, il y en a qui... Est-ce qu'on est 100% hétérosexuel?
Ah, ça c'est...
Est-ce que ça a du sens de dire je suis 100% hétérosexuel ou je suis 100% bisexuel ou je suis 100% homosexuel? Que répond la psychologue à ces affirmations peut-être erronées?
Je dirais qu'il n'y a jamais de 100% dans quoi que ce soit.
Et si on dit je suis 100% hétérosexuel, c'est qu'on s'enferme complètement, c'est qu'on est incapable finalement de se désentraver et d'aller vers ces aventures que vous nous racontez avec bonheur dans votre roman.
Certes, ou alors qu'on a besoin pendant un moment de sa vie, qu'on a besoin effectivement de rester enfermé, en tout cas cantonné dans cette étiquette, dans cette définition, parce que ça peut être aussi un garde-fou. Maintenant, effectivement, j'aborde et je touche aussi un sujet somme toute assez tabou encore aujourd'hui, en l'occurrence l'homosexualité et notamment masculine. Alors, Sam et Marco ne sont pas des homosexuels, on voit bien de quelle manière je fais bouger aussi en fait leur identité sexuelle. Mais voilà, ce que je montre, c'est qu'ils ne sont pas justement 100% hétérosexuels et que dans la construction, alors en tout cas en ce qui concerne Sam, dans la construction de sa sexualité, il y a eu fondamentalement cette rencontre avec ce professeur de philosophie.
Il y a quelque chose de l'ordre un petit peu de l'homosexualité à tendance... Antiquité grecque, c'est un peu amour des âmes aussi, d'une certaine manière, une sorte de complicité intellectuelle et spirituelle entre les deux.
C'est avant tout cela, finalement.
C'est pour cela que ça peut se passer et que ça devient charnel.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et concernant Marco, en fait, lui, il est totalement et pleinement épris de Lola. C'est une relation, encore une fois, fusionnelle, très intense. Et c'est au fil, justement, de leurs expériences libertines, qu'à un moment donné, il ne va plus pouvoir, en fait, nier certains aspects de son passé, et du coup les penchants, ou en tout cas les basculements, les fragilités qu'il contient en lui, autour notamment de cette attirance qu'il a et qu'il a refoulée à l'égard des hommes.
Pendant longtemps, médecine et psychiatrie ont considéré l'homosexualité comme une maladie. L'homosexualité n'est plus aujourd'hui reconnue comme une maladie. Je ne sais pas, depuis la psychologue, c'est peut-être depuis quand l'homosexualité a été retirée de la liste des maladies?
Je ne pourrais pas vous donner une date, mais c'est somme toute très récent.
Me semble-t-il aussi.
Heureusement que c'est plus considéré comme une maladie, heureusement que d'autres tendances ou entre guillemets pathologies ne sont plus considérées comme telles. Évidemment que l'homosexualité n'est pas une maladie, mais on voit bien aujourd'hui à quel point finalement le sujet reste très très sensible et très clivé finalement dans la société. Moi, ce que je cherche à exprimer aussi, à ouvrir dans mon livre, c'est essayons d'aller au-delà des apparences, essayons d'aller au-delà des jugements, essayons de comprendre à un niveau, à une dimension plus vaste, plus humaine, chaque chose et chaque individualité, chaque singularité.
Alors, vous êtes vous êtes une femme, je ne parle pas de la professionnelle, vous êtes une femme libre qui avait écrit un roman qui invite chacune et chacun à vraiment... profiter de toutes les ressources de la liberté qui nous est offerte, notamment dans notre pays. Parce que les sexualités ne se vivent pas de la même manière selon qu'on est en Afrique, en Asie, Amérique du Sud. Et il faut avoir conscience aussi.
Absolument, absolument. Bien sûr, bien sûr.
Quel homme politique pourrait interdire les rapports sexuels dans un pays?
Oh là là,
a-t-on
là
le pouvoir d'interdire cela?
J'espère que non. Vous savez, le pouvoir, je pense que j'ai pas forcément envie d'ouvrir le débat sur la notion de pouvoir, parce que c'est vrai que ça peut nous amener très très loin aussi, mais certains pouvoirs en tout cas qui peuvent comme ça être très dogmatiques, rigides, sont souvent sous-tendus par la peur. Donc à partir du moment où on arrive à se confronter à ces peurs à l'échelle individuelle comme collective, on peut amener les visions, les mentalités, les sensibilités à évoluer et du coup à gagner en tolérance, en tolérance.
Betty Yorillo, dans votre roman, j'ai relevé cette phrase, je vous la soumets bien évidemment, parce qu'elle est intéressante et chacune et chacun qui nous écoute va prêter attentivement attention à ce propos. Il ne faut jamais tout dire à la personne que l'on aime. C'est vrai, c'est faux?
Ah bah, si je l'ai dit, c'est que je le pense quand même. Hein, je...
Il ne faut pas tout dire à la personne que l'on aime.
Alors, ce n'est pas dans l'optique de « il ne faut pas ». Enfin, c'est vrai que je l'ai écrit comme ça, parce que voilà, c'était une phrase que pour quel est l'impact, voilà, que vous avez d'ailleurs souligné, c'était important d'utiliser ces mots-là. Ce n'est pas en termes d'obligation. Mais je pense que parfois, effectivement, par amour, par respect de l'autre, par compréhension, intuition, justement, de ses fragilités, de sa liberté, de son espace intime, de son jardin secret, il n'est pas forcément judicieux de tout dire, ou en tout cas, il faut vraiment prêter attention à la manière dont on va dire, et surtout, 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 à l'intention qui fait que l'on va décider de dire ou de ne pas dire. Il faut être au clair avec son intention.
Alors, dans la relation Sam et Anna, certes, il ne faut pas tout dire à son partenaire ou sa partenaire, mais Anna va tout de même lire le journal intime de Sam dans lequel il raconte tous ses ébats. Pourquoi lui donne-t-il à lire cela? C'est pour l'encourager et l'amener progressivement à franchir le seuil du fameux monde horizontal.
En tout cas, il lui donne pas vraiment. Parce que...
Ou c'est pour lui dire, moi je suis le roi des jouisseurs et tu dois venir contribuer à ma jouissance. Parce qu'il a un côté démesuré, cet homme. Et en cela, il est fascinant dans votre roman.
Certes, certes. En fait, justement, concernant cette question, il ne va pas lui donner à lire. C'est à un moment donné, à l'issue d'une scène... voilà, donc je voudrais garder le mystère que Anna va découvrir justement, hein, ce fameux livre, un peu comme un grimoire, comme on découvre un grimoire, voyez, on va dans un grenier, tout d'un coup on découvre ce qu'on ne devrait pas découvrir, mais si on le découvre, c'est peut-être qu'on devait le découvrir. Bref, donc, et du coup, il va lui donner, il va lui permettre de le lire, évidemment. Je pense qu'il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de manipulation chez Sam. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer quand on voit effectivement certains aspects du personnage. Non, je crois qu'il a l'intuition déjà, il est en train de tomber lui aussi éperdument amoureux d'Anna, ce qui est complètement nouveau pour lui, ce qui est un cataclysme au départ qu'il va essayer d'endiguer comme il peut. Et en même temps, il se dit que je pense qu'il a l'intuition que la seule personne qui va pouvoir vraiment peut-être comprendre qui il est, c'est Anna. Donc, il sait qu'à travers ses mémoires, eh bien, il va lui délivrer en même temps ses fragilités à travers son passé.
Il est un personnage paradoxal, riche, passionnant, fascinant. Moi, j'ai trouvé personnellement que c'était le personnage, à mes yeux, au cours de ma lecture, c'est celui qui m'a le plus interpellé. Il est un peu l'incarnation d'une beauté vénéneuse.
Certes, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr.
Alors, les femmes recherchent cette beauté et cas, elles cherchent aussi un peu le vénéneux chez certains hommes.
Il y a quelque chose dans chez Sam, à la fois effectivement dans ce qu'il dégage physiquement, mais dans tout son parcours et tout ce qui fait ce qu'il est, de cette espèce de danse entre Eros et Thanatos. Vous voyez, donc c'est un. Voilà, je pense que c'est fondamentalement fascinant, c'est sûr. En tout cas, pour certaines femmes.
Il y a quelques minutes, Betty Yorillo, vous disiez que bon, il ne faut pas tout dire à son ou sa partenaire pour l'épargner. Et j'ai relevé cette petite phrase. Alors, coquine et, à mon avis, petit clin d'œil aussi à la profession. D'où l'importance des confidences sur l'oreiller. C'est plus sexy que sur le divan d'un psy et tout aussi efficace. C'est une façon aussi un petit peu de se taquiner.
Oui, bien sûr, de pas me prendre au sérieux, même si j'aime profondément ma profession et je dis bien profession parce que pour moi il y a presque de l'ordre, c'est presque de l'ordre de la profession de foi. Mais voilà, il faut toujours un petit peu, garder une distance et puis une forme d'humilité. Et ce que je veux dire aussi finalement, c'est Sam d'ailleurs qui dit ça dans mon livre. Ce que je veux dire aussi, c'est que évidemment sur le divan d'un psy, dans un cabinet de psy, je suis bien placée pour le savoir. Le psy va être dépositaire de tellement de secrets, de tellement de choses intimes. C'est ça qui est bouleversant et qui est merveilleux aussi. Mais je pense que, sans aucun doute, sur l'oreiller, il peut y avoir là, à un moment donné, l'expression d'une intimité, d'une vulnérabilité, d'une profondeur inégalée.
Je rappelle la lecture du roman de Betty Yorillo, premier roman, Sous les mains de Shiva, aux éditions Librinova, passionnant, divertissant, mais aussi un roman qui ouvre un très grand nombre de pistes de réflexion C'est cela que j'ai trouvé absolument captivant et j'assume et je répète le grand plaisir que j'ai eu à vous lire. Et il y a un aspect, et je suis vraiment très sincère, Betty Iorillo, il y a un aspect très intéressant qui, là encore, va intéresser chacune et chacun qui nous écoute. Pourquoi introduire le sexe dans l'amitié ? Je me suis un peu trop lancé.
Oui.
Est-ce que le sexe peut nuire à une relation purement amicale ? Ou est-ce que c'est dangereux de mélanger
le sexe,
alors, quand je dis le sexe, j'entends un rapport sexuel de deux amis, homme-femme, homme-homme ou femme-femme, mm-hmm. qui ont une relation sexuelle sans vivre ensemble, mais en ayant entre eux une pure relation amicale.
Oui.
Le sexe dans l'amitié, c'est dangereux ?
Alors,
c'est un complément, c'est
personnel, dangereux, chacun en fait ce qu'il en veut. Un complément, je ne sais pas non plus. Vous savez, il y a cette espèce d'adage, je ne sais pas d'ailleurs de qui, qui dit qu'entre l'amour et l'amitié, il y a un lit de différence. Évidemment, que, voilà. Donc il s'agit fondamentalement, évidemment, de niveaux de rencontres avec l'autre complètement différents. Maintenant, c'est vrai que là aussi, j'ouvrirai parcelles, bon, des passerelles et des parcelles, notamment entre mes deux personnages féminins. À un moment donné, effectivement, il y a cette rencontre qui est charnelle, en même temps qu'une vraie rencontre, mais j'ai pas envie de dire amicale, parce que ça va être tellement plus loin que ça, c'est une rencontre d'âme, hein, entre elles. Donc à un moment donné, oui, ça peut être dangereux, si, parce que ça brouille aussi les codes, et si les choses ne sont pas clairement, je pense, aussi exprimées. Mais en fait, là, pour le coup, la sexualité peut apparaître, en tout cas la rencontre sexuelle, même ponctuelle, peut apparaître comme une autre forme de l'expression de l'amour.
Je voudrais, Betty Iorillo, si vous me le permettez, je voudrais lire juste un passage, ce sont dans les premières pages. C'est aussi pour montrer et faire entendre à nos auditeurs la qualité de votre écriture. L'orgasme dévastateur survint au moment où Lola pensait avoir épuisé jusqu'au tréfonds les sources de la jouissance. Fulgurant, lancinant, continu, il la traversa de toutes parts comme la foudre des dieux dans un flot infini de lave, de miel et de feu. Les murs de la chambre se mirent à vaciller autour d'elle et sa respiration s'interrompit durant de longues secondes au cours desquelles elle se sentit happée en dehors de son corps et de la réalité. Sa tête, renversée en arrière comme dans une prière extatique, se mit à chanceler tandis qu'un gémissement inaudible, surgi des profondeurs, s'échappait lentement de sa gorge. Une grande porte en bois sculpté, légèrement entrouverte, apparut devant ses yeux alanguis. Lola tendit la main dans un sursaut pour pousser la porte miraculeuse qui s'ouvrit sur une prairie verdoyante et fleurie, révélant un monde de lumière d'une beauté à couper le souffle. « Mourir maintenant !» se surprit-elle à souhaiter en contemplant les étendues de fleurs qui s'étalaient à perte de vue devant ses yeux. « Oui, mourir dans ce temple d'amour entre les bras du vent et les bras de Marco. Marco, il faut que tu viennes avec moi !» Les jambes de Lola se mirent à trembler et la forcèrent à s'agenouiller. « Est-ce que tu sens ce que je sens ?» Sa vision commença à s'estomper. « La prairie, est-ce que tu la vois ?» Lola se mit à tituber et lutta de toutes ses forces pour demeurer en apesanteur et avancer vers la prairie lumineuse, tandis que d'une main tremblante, elle cherchait à enfoncer la porte invisible qui se dérobait sous ses doigts. Il y a des passages, et ils sont nombreux, divinement travaillés. Bravo, Betty Iorillo.
C'est très émouvant de s'entendre... d'écouter, en plus avec une qualité de lecture, hein, qui est la vôtre, de s'entendre lire, hein, c'est très émouvant.
En tout cas, je recommande vivement votre premier roman, Betty Iorillo, Sous les mains de Shiva, ouvrage donc disponible en librairie sur commande ou sur les sites internet, notamment le site Librinova ou d'autres sites commerciaux partenaires. Et vraiment, ce roman m'a confirmé que notre plus grande zone érogène était le cerveau, Betty.
Merci.
Je vous remercie d'avoir été ce matin devant le micro de Wagon Livre. Le temps passe très vite avec vous. J'espère que nos auditrices et auditeurs se seront nourris des réflexions que vous avez données aujourd'hui au micro. Mais et qu'ils l'espère. Prolongeront ces réflexions en se divertissant et en vibrant aussi, en se procurant très rapidement votre roman, dont je rappelle le titre « Sous les mains de Shiva », sous la plume de Betty Yorillo, que je salue et remercie encore. Prochain rendez-vous de Wagon Livre, samedi prochain, toujours à 11h sur Radion. Excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la semaine prochaine.